Je veux bien commencer par l'action d'Amérique latine parce que en ce moment, en fait, en Amérique latine, il se passe le processus de négociation d'une convention régionale sur la participation dans le champ de l'environnement. C'est-à-dire l'équivalent d'Aarhus, en fait, est en train de se mettre en œuvre. Et effectivement, on est dans la même situation où les États, justement liés à ces questions de la transition démocratique, acceptent un instrument contraignant. C'est-à-dire la même logique que la convention d'Aarhus, qui était un instrument contraignant. Alors que ça pourrait être juste une déclaration de principe disant on applique le principe 10 de telle façon. Donc là, non, l'Amérique latine va, c'est vraiment en cours là, est en train d'élaborer un texte qui va être contraignant. C'est toujours intéressant de voir des États se lier les mains sur la question démocratique. C'est-à-dire que évidemment, c'est le fruit d'un contexte extrêmement particulier. C'était le cas dans les années 90 en Europe et c'est le cas aujourd'hui sur l'Amérique latine. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Maintenant, ce que tu dis sur le. Sur un autre type de professionnalisation, et effectivement, alors je l'ai pas dit, mais les questions permettent toujours de se rappeler ce qu'on voulait dire et qu'on n'a pas dit. Il y a aussi, là moi je suis pas du tout un spécialiste, mais la question du rapport au corps social et au grand public des associations environnementales, c'est aussi leur base d'adhérents, et c'est, on sait très bien une très grande différence entre notre société, nous, dont on attend de l'État, en gros, qu'il prenne en charge la question de la durabilité du patrimoine, etc. Les sociétés anglo-saxonnes, en particulier, où les trusts sont les modèles, en gros, de l'action en faveur du patrimoine, donc avec une très forte base adhérente, que nous n'avons pas et dont les associations se plaignent aujourd'hui. Donc, il est certain qu'il y a aujourd'hui, mon sentiment, c'est que ce défaut de lien fort, d'assises populaires, on va dire ça comme ça, en tout cas dans le corps social, de nos ONG environnementales, les rend faibles, donne une difficulté. Alors, la question, c'est quel axe stratégique elle développe pour parer à cette faiblesse. Et ce que je constate simplement, c'est que elles vont aux signes les plus accessibles de force, c'est-à-dire la reconnaissance par l'institution, pour le dire vite. Voilà. On leur propose ça et elles y vont à plein. Et il me semble qu'effectivement, elles oublient très largement des dispositifs de contestation, d'occupation, de blocage, etc., de tout ce qu'on voudra, donc qu'elles n'ont pas investi. Ces ONG passent finalement plus de temps en commission des sites ou en Coderst ou en ce qu'on voudra qu'à monter des barrages, des occupations, des choses comme ça. Et là, effectivement, je rejoins Cécile en disant que ce n'est pas toutes les ONG, il y en a qui développent ça. On voit très bien l'impact symbolique de Greenpeace, qui est la plus connue, mais si on prend Sea Shepherd par exemple. Sur les questions d'océan, je veux dire, on voit très très bien la puissance aussi symbolique de leur lutte et la dimension d'action directe qui est tout à fait légitimée par le corps social dans son ensemble. Il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sont des modalités d'action qui aujourd'hui, effectivement, manquent assez cruellement en France. Pour le dire autrement, la crainte, finalement, du référendum, est-ce que ce n'est pas la crainte de ne pas être en capacité de faire campagne? C'est ça mon souci à un moment donné. Je me demande si c'est pas seulement la crainte que le public est débile et que de toute façon il comprend rien et que par définition un référendum est populiste, mais je crois que c'est aussi beaucoup la crainte de ne pas être en capacité effectivement d'éclairer le public de ces façons-là pendant la campagne du référendum. Et je rappelle un moment aussi fort, je pense, c'est l'après Fukushima. On était dans la préparation des présidentielles en France. Et il y a eu chez ELV un débat tendu en disant, pour le dire vite, hein, Cohn-Bendit disant c'est le moment, tout le monde a peur du nucléaire, il faut obtenir de Hollande qu'il organise un référendum sur la sortie du nucléaire, et on peut le gagner. Et le reste de ELV, en particulier du FLO, qui disait on négocie avec le PS la sortie du nucléaire, et on fait surtout pas de référendum parce qu'on va le perdre. Ces deux logiques-là, c'est aussi un moment où je trouve que les choses se sont croisées de façon assez intéressante. Cohn-Bendit avait, j'ai plus la citation en tête, mais enfin, c'était assez, sans doute un peu inconscient peut-être, mais il disait, vu le contexte, on peut le gagner. Évidemment, on connaît la suite, hein. La négociation de la sortie du nucléaire avec Hollande, on a vu ce que ça a donné. Donc, du point de vue de la stratégie écologiste, il y a quand même, bon, bref, il y a quand même une petite critique à faire. La deuxième chose, après, par rapport à ce que tu disais, Cécile, enfin, il y a pas mal d'autres choses. Oui, pardon, Laurence Mollier-Smith qui devient commissaire général du développement durable, c'est un cas supplémentaire et très intéressant de comment la participation peut faire franchir des étapes dans l'institution, ce qu'on a constaté au ministère de l'Équipement à une époque. Et aujourd'hui, là, c'est tout à fait étonnant. Mais bien, bien, bien malin celui qui peut dire ce qui va en sortir. Parce que là, pour le coup, ça ne veut pas dire que la CNDP va en sortir nécessairement plus fort, par exemple. Je prends un exemple. La CNDP aujourd'hui, on parlait de la défiance tout à l'heure. La CNDP, encore sur CIGEO, elle prend encore des claques. Encore sur tous les projets, elle prend encore des claques dès qu'elle démarre. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a quand même un vrai souci, à un moment donné, de légitimation à long terme de nos procédures de participation, qui sont en plus, pour le coup, qui ont fait un peu leur preuve. Il y a quand même un vrai souci là-dessus. Donc, du point de vue du ministère, il y a, à mon avis, on ne peut pas s'appuyer sur des gens. Il faut qu'à un moment donné, la légitimation soit claire, nette et précise. Quand dans la commission Richard, les maîtres d'ouvrage public ne viennent pas, c'est que, y compris au sein de l'État, on n'est pas clair sur la question de la participation. Et puis, Cécile, tu parlais effectivement de la diversité des associations environnementales et du décret sur l'agrément environnemental. Qui a fait évidemment beaucoup de mal aussi dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il a vraiment été, en plus, pris au mois de juillet, quand il n'y avait personne. Ça a été pris comme effectivement aussi, en gros, un cadeau qu'avait fait FNE à l'État. C'est extrêmement, extrêmement mal vécu. Donc je crois que de ce point de vue-là, ce qui m'intéressait là dans cette tentative, c'était d'essayer de renvoyer effectivement aux ONG un miroir très déformant sans doute. Mais de leur dire, vous avez d'autres voies que celle de finalement rentrer dans les clous dans lesquels on veut vous faire, enfin dans lesquels finalement on vous fait rentrer quoi. Ce matin, hein, la question de l'enrôlement, l'action de la modernisation de l'État que Charlotte a beaucoup développée, ça faisait vraiment écho à ça. C'est-à-dire que voilà, un poste au CESE, au CESER ou au CESE, une expertise ornithologique sur les impacts de l'éolienne. Un certain nombre de choses dont l'État a besoin, et l'État, relativement sincèrement, demande, enfin, les dommages publics, demande effectivement aux ONG aussi leur expertise, leur capacité, etc. Il me semble que ça réactive un mythe des origines. Voilà, enfin, je prends des grands mots, mais du mouvement environnemental. C'est-à-dire, je pense qu'en fait, il réactive deux choses. On est écolo, ça veut dire qu'on est une minorité éclairée. C'est-à-dire qu'on sait que les autres ne savent pas. Et qu'on est en avance sur le temps. Et ça, c'était sans doute vrai il y a 40 ou 50 ans, à la Vanoise, par exemple, ou ailleurs, sans doute vrai. Je pense que l'écologie politique est encore très, très imprégnée de ce mythe. Et deuxième élément, nous sommes les services déconcentrés du ministère de l'Environnement. Nous sommes les supplétifs, comment on dit, les co-gestionnaires de la question environnementale avec l'État. Donc si l'État nous demande de faire quelque chose, on y va. On va le faire, et c'est normal. On le dira peut-être pas très haut, mais... Et ça, c'est quand même, je trouve, un mythe, en tout cas une position originelle des associations environnementales qui est quand même extrêmement datée, quoi. Qui me semble ne plus du tout correspondre aux attentes même de la population du point de vue de la place qu'ont les ONG environnementales dans l'animation du débat. C'est vraiment, là, pour le coup, je trouve que ce miroir pourrait peut-être aider, sans être provoquant, le moins possible, en nuançant effectivement les propos, peut-être à un moment donné aider à faire voir d'autres voies. Cécile me demandait quelle proposition. C'est pas du tout ne pas donner plus de poids. Au contraire, c'est donner plus de poids aux ONG environnementales, mais plutôt leur donner les possibilités de le prendre, ce poids. Parce que je pense qu'il faut justement qu'on arrête de leur donner du poids ou de chercher à leur donner. La question, pour moi, elle est là. C'est est-ce de leur ouvrir d'autres chemins qui leur permettent de prendre du poids. Je ne sais pas si je suis clair.
Si je puis me permettre 30 secondes, c'est ce qui fait reprendre cette position d'avant-garde des environnementalistes ou des écologistes, c'est l'action de l'urgence planétaire. C'est-à-dire que c'est là, c'est ce discours-là, il est très prégnant dans ces courants-là et il repositionne ses interlocuteurs comme étant on n'a plus le temps de tergiverser. Et donc ils vont à l'encontre d'une autre position qui serait on a justement besoin, vu les comportements demandés aux populations, ils sont tels qu'on a absolument besoin justement que ces populations participent à ces changements de comportement et soient propriétaires, entre guillemets, des modalités de ces changements de comportement, parce que sinon on va à la catastrophe. Mais donc cette catastrophe que tu évoquais au tout début de ta présentation, elle est majeure et c'est peut-être ça qui la différencie des autres acteurs qui sont défiants par rapport à la participation. C'est que là, cette question de la catastrophe à venir les rend légitimes, en tout cas... entre eux, ça, sans aucun doute.
Après, cette question de la catastrophe et du fait que, effectivement, enfin, au nom, c'était au nom de l'urgence, enfin, ce terme-là. Si on prend les plans climat énergie territoriaux, par exemple, aujourd'hui, même pas les agendas terres, mais juste les PCET, les PCET eux-mêmes, aujourd'hui, les ONG, jouent le jeu de l'adaptation et non plus de la mitigation. Enfin, la réduction. C'est-à-dire que, dans les faits, dans la réalité, quand on fait un processus de participation sur un plan climat aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la réduction, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais que de toutes les façons, on ne fera pas grand-chose. Et que donc, l'important aujourd'hui, c'est de préparer les territoires à l'adaptation. Ça, là, je trouve que c'est intéressant. Et ça, c'est entre autres le produit du débat. Et on voit que les ONG environnementales, là-dedans, jouent complètement leur part. Dans les plans d'action des PCET, on a des ONG qui jouent ça, quoi, qui disent « Ok, j'entends, il faut être réaliste à un moment donné. On va vers un réchauffement climatique, c'est très clair. » Et qui quitte un peu ce discours catastrophiste en disant « Maintenant, adaptons-nous. » Moi, il me semble véritablement que la question de la catastrophe, c'est aussi la rhétorique du Club de Rome, enfin, c'est aussi extrêmement daté, d'une certaine manière. Et quand tu dis que c'est revitalisé aujourd'hui, je trouve ça très juste, et en même temps, c'est un discours qui ne peut plus être tenu, à mon sens, taisez-vous, parce que de toutes les façons, si on prend le temps de discuter, on va dans le mur. Je crois que... tout ce que j'essaye de dire là, c'est que... il s'est passé 40 ans depuis ces échanges d'arguments. Il est temps de changer un peu de position, à mon sens.
Oui, voilà, mais cette attitude-là, elle provient aussi du manque de munitions, entre guillemets, du manque de militants, etc., qui les empêchent finalement d'avoir une action de masse. Donc, du coup, qui les portent vers une action d'acteurs éclairés.
C'est pour ça que la logique de ce qui s'est passé à Sivens, où je parlais d'éducation à l'environnement, développement durable tout à l'heure, c'était pas juste pour faire l'anecdote. Les bataillons, en fait, je pense qu'ils sont là maintenant. Je pense que très clairement, ils n'étaient pas là il y a 30 ans, mais moi je pense qu'ils sont là. Dans les jeunes générations, je suis... Et on voit un peu, quoi. Alors bon, sur des luttes, puis il faudrait voir les luttes environnementales, comment elles sont mêlées à des luttes aussi anarchistes ou pas, des luttes autres, contestation d'ordre social aussi, je veux dire. Donc je trouve c'est vraiment un truc qui serait intéressant, c'est aujourd'hui les ZAD d'aller travailler, peut-être une monographie quand même,
ouais, au moins une. Quand même, mais ça c'est ça que je veux parler.
Non, mais je pense que ce serait vraiment très riche. Ouais. Mais je pense que le soutien aux ZAD dans le corps social, notamment jeune, il est extrêmement fort.
Mais il y a peut-être pas une clé de lecture aussi après sociologique sur les militants de FNE.
Ils sont liés.
Tu parlais des quartiers, ce qui se passe aussi de la participation urbaine. Ouais. C'est intéressant quand c'est les quartiers populaires. Il y a des choses qui se passent, il y a une conflictualité tout à fait intéressante. C'est plutôt pas ces acteurs constitués
qui, par exemple,
ne se ressemblent pas sociologiquement. C'est ça.